par Jésus-Christ soit avec votre esprit aussi ce matin. Nous te louons pour ce que tu vas nous dire encore, ce que tu vas dire aux églises. Oui, nous en arrivons au chapitre 4, comme nous l'avons entendu avant. Avez-vous oublié ce qui est en arrière? Êtes-vous nouvellement prêt? Et cette parole commence donc, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Oui, d'un côté, nous oublions ce qui est en arrière et nous portons vers l'avant, et d'un autre côté, nous tenons fermement. Et c'est aussi mon fardeau ce matin, que nous nous tenions fermement. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est une telle colonne qui ne peut pas être déplacée si facilement. Cela compte pour chacun de nous individuellement de tenir fermement, mais aussi pour l'Église, que l'Église soit ferme. Et l'Église a son appui ferme, pas dans ses activités, mais Christ est notre fondement et le seul fondement. Et Christ est également tout ce qui fait que l'Église soit l'Église. Et toujours à nouveau, il est écrit que nous devions devenir fermes. Également, dans 2 Pierre 3, il dit, voyez, que vous ne soyez pas déchus de votre fermeté. Donc, il est important de rester ferme. Et il est plus facile dans la vie d'Église de rester ferme. Et spécialement, quand nous vivons cette expérience en ayant les frères et sœurs comme notre joie, et non pas comme notre fardeau, mais comme notre joie. Paul, avec les Philippiens, avait une telle relation qui se réjouissait les uns des autres. Déjà, dans le chapitre 1, il ne faut pas nous l'oublier, il a évoqué l'amour. Comme il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Et je prie le Seigneur afin que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Donc, tous les frères et sœurs sont tellement précieux. Et même sont notre couronne, notre joie. C'est également, ceci nous rappelle ce que nous avons déjà entendu. Si les frères et sœurs sont ma couronne, alors les frères et sœurs sont plus élevés que moi. Amen. Soumettons-nous au Seigneur et au Saint dans le corps. Ça, c'est la vie pratique de la manière de vivre de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on peut aussi le comprendre comme ça? Tous les frères et sœurs sont une couronne. Mais alors moi aussi, je suis une couronne. C'est merveilleux. Maintenant, je suis une couronne. Maintenant, je vais dire ce qu'il faut faire. Ouais, il faut encore une fois relire la parole. Il faut redémarrer à zéro. Contemplons Christ qui s'est dépouillé. Il a même accepté de devenir un esclave. Il n'a pas choisi, par exemple, d'être un ouvrier. Il n'a pas recherché une certaine position, non. Et il a pris le statut d'esclave. Celui qui possédait l'esclave pouvait le battre. Et ce n'était pas puni puisque c'était des esclaves. Et le Seigneur a accepté cette nature d'esclave. Et s'est encore plus abaissé. Il a été obéissant, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Ça, c'est la pensée, l'attitude intérieure qui animait Jésus. Et nous avons besoin de cela dans l'Église. Et c'est également important pour Évodie et Saint-Tiche. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'une même pensée en allemand, sentiment français. Pour le Seigneur, il s'agit du corps. Et comme nous l'avons entendu ces jours-ci, il n'habite pas seulement dans notre esprit, mais il fait sa demeure dans nos cœurs. Il renouvelle notre homme intérieur. Il grandit en nous. Il prend stature en nous. Paul dit, pour moi vivre, c'est Christ. Et Christ doit être agrandi dans mon corps. Christ doit être agrandi par nous. Cela, afin que nous brillions dans dans le monde comme des lumières. Ok, certains ont des problèmes par rapport au corps. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls à être devenus croyants. Il a plu à Dieu d'avoir de nombreux enfants. Nous sommes dans une grande famille, une famille nombreuse. Donc il y a aussi des enfants que nous n'aurions pas choisis. Donc Dieu les a choisis. Et le Seigneur aimerait vraiment assembler son corps. Et tous les saints sont nécessaires. Parce que Christ est tellement riche. Nous poursuivons. Nous voulons être saisis par qui nous avons été saisis. Et cela ne peut se faire qu'ensemble. Certains disent, oui, avec eux, je ne peux plus. C'est trop. Il y a tant de choses qui se sont passées. Je me retire. Moi, je vis simplement Christ. Je ne m'occupe plus que de moi et de mon Christ. Ça résonne bien, peut-être. Je veux être pleinement sanctifié. Pas d'injustice. Avec les problèmes, je ne veux rien avoir à faire. Oui, ça résonne bien, ça sonne bien. Mais qui pense comme ça? Rien saisi de l'attitude intérieure, de la pensée de Christ. Christ s'est donné pour l'Église parce qu'il a aimé l'Église. Et je voudrais même dire, celui qui parle ainsi, qui dit, maintenant je ne veux plus que m'occuper de Christ, je vis ma vie avec Christ, je me porte bien, je l'ai entendu récemment ceci. Oui, Christ est la tête. Et Christ est aussi le corps. Qui parle ainsi et pense qu'il a la tête. La tête dira, je donne tout pour mon corps. Donc il n'a même pas la moitié. Et Évodie et Saint-Tiche ont eu un problème ensemble. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'une même pensée dans le Seigneur. Elles étaient dans l'église à Philippe. Mais pratiquement, elles n'étaient plus un. Et j'ai réfléchi un peu. J'aurais bien aimé savoir quelles étaient leurs différences. Et pourquoi il évoque ici des sœurs? Et il arrive souvent que les sœurs aient des problèmes. Marthe et Marie. Mais les frères aussi avaient des problèmes. Les disciples ont demandé, Seigneur, nous voulons te poser une question. Peux-tu faire que nous soyons, nous, à ta gauche et à ta droite, assis à ta gauche et à ta droite? Nous avons tous le même arrière-plan. Nous aimerions être plus élevés. Et je pense que c'était aussi le problème chez eux. J'ai essayé de trouver une piste en regardant les noms. Mais ça n'a rien apporté. Et je pense que c'est sage de la part du Seigneur. Parce qu'il en est souvent ainsi dans nos expériences. Parfois avec une relation directe avec le Seigneur, parfois avec quelqu'un, un saint, qui est sous le même joug que moi, et là on applique la mort du Seigneur ensemble.
Et
quand nous avons passé au travers des différences et quand nous revenons à l'attitude intérieure du Seigneur, quand on regarde ce qui nous séparait, on se rend compte, mais c'était une petite différence qui était devenue tellement grande. Et c'est ce qui arrive souvent. Parfois, il y a simplement une incompréhension, une différence d'opinion. Une différence d'opinion à laquelle notre âme s'attache fortement. Et ici, ce qui est très positif, et dont les noms sont dans le livre de vie, la fin du verset 3. Quand les disciples reviennent après que le Seigneur les ait envoyés pour annoncer l'évangile dans les villages, ils étaient enthousiasmés par ce qui s'était possible, par ce qui s'était passé, par ce qu'ils avaient pu faire, naturellement. Là, on peut dire, ah oui, et lui, il a fait plus. On peut aussi avoir du zèle. Le Seigneur dit simplement, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça doit nous suffire. C'est quelque chose de merveilleux d'être écrit dans le livre de vie. Qui a utilisé plus celui-là ou celui-là, qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre, ceci n'a pas d'importance. Ceci n'a pas d'importance. La paix de Christ et la joie. Oui, ça, oui. Alors nous avons la joie. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Spécialement pour ceux pour qui c'est pas tellement facile, mais je vais revenir d'abord. En tout cas, le Seigneur voudrait qu'on garde ce commun accord. Et c'était dans le chapitre 1 aussi, que nous tenions ferme dans un même esprit, combattant avec une même âme. Nous tenons ferme dans un même esprit. Et l'âme est le moyen, c'est ce que nous avons vu, avec laquelle nous tenons ferme. Et ça m'a rappelé à Luc 1, versets 46 et 47. Là, Marie loue. Mon esprit s'est réjoui. Ça, c'était en premier. Et mon âme exalte le Seigneur. Ça, il nous donne son esprit. Et depuis l'esprit, il renouvelle notre âme et notre âme exalte le Seigneur. Notre unité est dans notre âme renouvelée, dans l'attitude intérieure du Seigneur, dans la pensée du Seigneur. Et quand de temps en temps il y a des frictions, que ça craque un peu, alors on peut restaurer cette unité. Nous sommes crucifiés avec Christ. Nous laissons œuvrer sa mort. Et penser la même chose. Prenons vraiment activement cette pensée, cette volonté du Seigneur. Et alors, le corps sera aussi rempli de Christ. Et tout sera rempli de lui. Et ensuite, nous l'exprimons ensemble. Et c'est ce qu'il désire, le Seigneur. Le Seigneur a prié que nous soyons, devenons parfaits. Comme le Père et le Fils sont unis. C'est possible, le Seigneur le veut. Et c'est le nouvel homme. Et c'est une vie céleste menée sur la terre. Donc la citoyenneté est dans les cieux. Mais Christ est rendu visible par notre vie et par la vie de l'Église, par Jésus. Et on a dessiné plusieurs fois les cercles. Je vous les rappelle maintenant. Nous sommes nés de nouveau dans notre esprit. Notre âme est en train d'être renouvelée en étant remplie de Christ. Et nous avons aussi un corps. Et avec notre corps, nous sommes sur la terre. Et si nous voulons être l'Église du Seigneur, le Seigneur a aussi besoin d'une expression pratique sur la terre. J'aimerais encore ajouter un peu quelque chose concernant l'Église, parce que cette épître a été écrite à l'Église, aux Philippiens, parce qu'il dit, vous les Philippiens, vous savez, aucune Église n'a eu de communion avec moi. Les Philippiens sont évoqués et l'Église là-bas aussi. Et au chapitre 1, il est dit aussi, Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ouais, à l'époque c'était très simple. Les saints étaient là-bas à Philippe et ils étaient l'église à Philippe. Regardons aujourd'hui Stuttgart, par exemple. Je pourrais prendre n'importe quelle autre ville. Quand nous regardons aujourd'hui Stuttgart, il y a tant de groupes qui s'appellent église. Où devons-nous aller? Quelle église est-il que le Seigneur aimerait avoir? Et j'aimerais rajouter quelques phrases parce que j'aimerais que dans ce point-là, dans la compréhension de la parole concernant les églises, en ce qui concerne aussi les expressions pratiques de l'église, oui, c'est vrai, en esprit, nous sommes tous un, c'est invisible. Et si nous sommes un en esprit, alors pourquoi pas non plus être unis dans nos âmes? Être d'une âme. Être une âme. Et alors, où allons-nous avec nos corps pour rendre réelle, pour visible cette unité? Je rajoute quelques phrases en ce qui concerne les divisions. Aujourd'hui, les chrétiens sont très divisés de tellement de directions, tellement de groupes, et il y a des raisons pour ces divisions. Et une raison qui est là, qui est visible, ce sont des raisons géographiques. Par exemple, l'Église catholique a son siège à Rome. Donc, Rome est devenue le centre. Et ici, en Bade-Württemberg ou en Allemagne, on a beaucoup des églises d'État qui comportent toute une région. Il y a l'église d'État du Württemberg, l'église du Bade-Württemberg, ça donnait l'église en fait commune. Ils se sont unis. Les deux églises d'État se sont unies. Non, il reste encore une partie en division. Ah, je pensais qu'ils étaient unis. Ah non, bon, un frère est intervenu. Donc, on a du mal à vaincre les divisions. En Angleterre, il y a l'église anglicane. Tout ça, c'est le pays. La deuxième raison est temporelle. Il existe des développements comme dans l'église d'État du Württemberg. Il y a eu au 19e siècle des groupes de communion qui se retrouvaient entre eux. Donc, il y a la communion du Sud, il y a différentes communions où ils se retrouvaient en groupe. Et la troisième raison, ce sont les hommes. Les hommes se sont séparés à cause des hommes. Par exemple, il y a l'église luthérienne et il y a l'église de John Wesley qui a annoncé l'évangile dans les rues. C'était sa méthode. Et sur lui a été fondée l'Église méthodiste. Ou alors il y a des vérités. Parfois il y a des recoupements dans le pays même, les régions, mais en même temps reliés aux hommes, de même avec les vérités. Il y a des croyants qui ont reconnu la réalité du baptême en tant qu'adultes et pas comme les bébés, ça a donné l'Église baptiste. Il y a aussi des croyants qui ont trouvé que, ou découvert que, nous ne devons pas dépendre d'une organisation centrale dans l'État, mais nous créons des associations diverses. Là où nous sommes, nous nous organisons. Et ensuite, on échange, par exemple, les prédicateurs entre les différents groupes. Et ça existe jusqu'à ces jours-ci. Et c'est vraiment reconnu. Chaque église a sa propre administration. Mais il y en a qui en ont fait un système. Certains ont reconnu que, au départ, il y avait des apôtres. On a de nouveau besoin de cette vérité. Et les églises traditionnelles ne l'ont plus. Non, elles sont restées figées dans leur structure. Nous avons besoin d'apôtres. Et l'Église apostolique est née ainsi. Donc, des vérités ont été prises pour, en fait, séparer les chrétiens. Ce que je veux dire, la vérité dans la Bible concernant l'Église et l'expression pratique de l'Église est simple. Je vous ai présenté un peu un parcours historique, mais la Bible est très simple. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est simple. Et la vérité concernant l'expression pratique de l'Église est simple, sans confusion. Dans la Bible, on voit très clairement que l'Église est toujours en relation avec le lieu. Philippe était un lieu. L'Église à Philippe était dans ce lieu. Et l'Église est reconnue d'après le nom du lieu. Quel nom doit avoir l'Église? Et dans l'Église, si nous sommes l'Église dans le lieu, il ne faut pas faire plus de différence. Il n'y a pas d'autre division. L'Église n'est pas plus grande que le lieu. J'aimerais dire, entre parenthèses, ici nous avons une grande salle. Nous venons à la conférence ici, mais ce n'est pas le centre. Ce n'est pas l'Église mère, entre guillemets. Ça, que ceci est vraiment loin de nous. Nous pratiquons ce que dit la parole. Et l'Église, dans le lieu, n'est pas non plus plus petit que le lieu lui-même. Aujourd'hui, il y a un tel courant de faire des églises de maison. Je me retrouve avec certains que je connais et je fais l'église de maison. Le Seigneur veut l'unité de tous les croyants dans le lieu où nous habitons, que celui qui a des oreilles entende. Et si ça ne plaît plus avec les croyants dans le lieu où j'appelle, puis-je créer une autre groupe dans ce lieu? Alors je vais changer de lieu, je change d'église. Non, il faut dans ce cas-là que j'aille dans un autre lieu. Mais la question est, est-ce que le problème ne va pas te suivre si tu déménages? Parfois, la cause n'est pas liée aux autres. Ce qui est important, donc, si nous sommes dans un lieu, que nous cherchions la communion avec, qui se tienne aussi sur cette base, se réunir simplement sur la base de la communion avec ceux qui habitent dans ce lieu. Expérimente le Seigneur et laisse le Seigneur réunir les personnes. Mais j'aimerais dire aussi, mais le seul fait d'avoir reconnu que l'Église se trouve toujours dans le lieu où nous habitons, ça ce n'est pas difficile à comprendre. Et cette phrase est tellement simple, l'église à Éphèse, l'église à Corinthe, j'ai inscrit les versets, et un peu de révélation, ça ce n'est pas tellement difficile à comprendre, mais le seul fait de savoir ceci ou de reconnaître ceci ne fait pas encore de nous l'église. Oui. C'est important, oui, nous l'avons reconnu, ok, dans ce lieu, tu es croyant, moi aussi, donc ici, nous sommes l'église dans ce lieu. La source doit être le Seigneur. Pas seulement cette connaissance qui nous amène ensemble, ça doit être le Seigneur lui-même. Paul avait ce fardeau. Christ doit être magnifié, sinon la connaissance va être magnifiée. Et qui n'a pas cette connaissance? Et que nous vivions Christ. Commençons d'abord par vivre Christ. Ayons l'âme renouvelée. Approvisionnons-nous les uns les autres de Christ. Prendre la parole de vie, distribuer la parole de vie. Alors le Seigneur montrera quand son témoignage est là dans ce lieu. Parce qu'elle brille, le témoignage brillera. Nous trois, nous on dit, nous sommes l'Église. C'est possible que ce soit l'Église. Si Christ en est le contenu, si Christ brille hors de ses frères et sœurs. Mais commençons par vivre Christ, à le gagner, à le poursuivre. Pas seulement avoir de bonnes doctrines, ou comment le vois-tu toi? Il faut le voir comme ça. Ah ben non, il faut le voir comme ça. Non. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain, dit Paul. Il pensait la mort physique. Et je dis, moi aussi, donner cette vieille vie dans la mort. Alors Christ peut prendre tout l'espace. Alors Christ peut grandir. Alors il y aura le fait que Christ grandisse et brille hors de nous. Qu'est-ce que ça si quand des frères et sœurs dans un lieu se retrouvent et qu'ils se disputent, est-ce que là il y a la lumière qui brille? Celui-là ne peut pas s'entendre avec celui-là. Et alors le dimanche on va rendre visite à une autre assemblée? Oui, ok. Dans certains lieux, il y a des choses graves où la vérité est attaquée. Mais dans le principe, quand il s'agit de nos choses personnelles, nous avons le fardeau de l'Évangile. Nous voulons que le Seigneur sauve des personnes nouvellement et qu'ils soient sauvés des péchés. Et dans quoi vont-ils être sauvés ou amenés? L'Évangile sort du corps, de l'unité, de la joie, de la paix avec les saints. Ayons tous cette pensée et recherchons cette pensée. Et si nous pensons d'une manière différente, que le Seigneur le révèle, mais nous marchons dans cette voie-là. Et le fruit, et il y aura aussi du fruit porté dans le corps. Donc l'œuvre de Dieu est un salut intérieur complet qui va vers l'extérieur et qui est exprimé dans l'église du lieu, par les saints du lieu qui ont ce fardeau. Donc c'est le fardeau du Seigneur. Et alors il y a aussi beaucoup de joie. Un frère a dit, ah mais on n'a même pas parlé de la joie. Nous n'avons pas besoin de parler de la joie. Cette joie, elle vient quand Christ est notre vie. Et ces jours-ci, je vois des visages joyeux. La joie a augmenté. Quand nous laissons tous notre moi combien glorieux est alors ton corps. Et c'est vraiment ce fardeau de l'Église que nous vivions Christ, que nous l'expérimentions et que nous l'apportions vers l'extérieur. Et ça, c'est le devoir de l'Église aujourd'hui, sa mission. Le Seigneur l'a dit à l'Église et le Seigneur a dit à ses disciples, « Allez-y, je suis avec vous. Faites des disciples, enseignez-les. » Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Mais la Nouvelle Alliance dit que personne ne doit enseigner son concitoyen. Mais d'après la parole, ici, c'est apprendre à vivre Christ. Le connaître, lui. J'aimerais le connaître, lui. Que tous puissent le connaître. Ça, c'est le fardeau qu'a le Seigneur aujourd'hui. Que son Église le vive et apprenne dans chacun et en tout. Et il emploie un mot que je ne comprends pas et il demande d'ailleurs si on le comprend. Mais ce mot me plaît, mais les frères et sœurs ne le comprennent pas tant. De moi, on a ce chant qui dit que cela parte de mon esprit. C'est quelque chose qui est joyeux en nous. Je ne voulais pas dire actif. Ça résonne un peu. Ah, on fait certaines choses, ça peut paraître, et pas d'autres. Non, que cela vienne, jaillisse de notre Seigneur qui vit en nous, de ce qui est devenu nouveau pour nous, que cela sorte de nous et continue de s'écouler. Nous brûlons quand notre cœur brûle pour Christ. Ben, cela jaillit de nous. Et ça, c'est le fardeau, la mission du Seigneur aujourd'hui de l'Église. Nous sommes dans le temps de la grâce qui s'arrêtera un jour. Et l'œuvre de Christ a différents aspects. Christ est venu dans un premier temps. Je ne voudrais pas le dessiner. Parce que tous les schémas sont limités. J'aimerais plutôt inscrire dans vos cœurs. Donc, Christ est venu la première fois. Quelle était son œuvre? Là, il a accompli un salut complet, éternel. Il a pris tous les péchés du monde, les a mis sur la croix. Il a créé un chemin libéré pour que Dieu puisse entrer dans les hommes. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Au début, Jésus reviendra. Et là aussi, il a encore une œuvre. Quelle sera son œuvre quand il reviendra? Quand il reviendra, il établira son royaume sur la terre. Et cette ère va être renouvelée. Elle va être changée. Donc il n'y aura plus de guerre ni de dispute. Là, il régnera. Alors là, la société aura de l'ordre et tout le monde se portera bien. Mais ça, c'est quand le Seigneur revient. Là, ce sera son œuvre à lui à ce moment-là. Aujourd'hui, il est déjà le roi des princes de la terre. Il a tout dans sa main, mais son royaume, il ne l'établira visiblement que quand il reviendra. Et donc, qu'y a-t-il entre ces deux périodes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées pour améliorer le monde. Mais je pose la question, est-ce que l'homme déchu peut améliorer la terre déchue? La réponse est claire. Comment cela est-ce possible? Il y a toujours de nouvelles idées et de nouveaux mouvements. Nous devons faire quelque chose. Il y a des choses dans le domaine social, dans le climat, tout ce qui est environnemental. Oui, c'est là, toutes ces solutions, propositions de solutions. Mais l'œuvre, ce sera Christ qui le fera quand il reviendra. Et là, tout sera changé. On aura le bon air. Et avant toute chose, il n'y aura plus d'esprit impur là, qui tourne ou qui tournoie. Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, notre mission est de continuer de propager Christ, la vie que nous avons reçue, de la laisser jaillir de nous. L'évangile qui nous a sauvés et qui peut nous sauver parfaitement, de le dire aux autres. Aujourd'hui est le temps de la grâce. C'est le temps où les pécheurs peuvent être sauvés et doivent être sauvés. Que des hommes soient... qu'ils puissent ne pas atteindre justement, atterrir dans l'étang de feu. Et là, c'est dit aussi que tous les frères, que tous les hommes, je le cherche, tous les hommes puissent entendre, que votre douceur soit connue de tous les hommes, que nous ayons aussi de la compassion pour les hommes, qu'ils touchent l'amour du Seigneur. Et ne trie pas tellement. Non. C'est au Seigneur de le faire. Et de toute façon, ce n'est que le Seigneur qui peut ouvrir les cœurs. Et la raison, c'est que le Seigneur est proche. Ça peut être compris de manière différente, ceci. J'ai compris cela comme ceci. Quand il y avait une occasion, quand j'étais pas sûr. Mais le Seigneur est proche. Dans la version anglaise, il est dit que le Seigneur est juste là, à portée de main. Ah oui, the Lord is at hand, ça veut dire qu'il est à portée de main. On peut même se le représenter physiquement. Il est là. Et s'il est là, à portée de main, ça veut dire qu'il nous soutient. Et nous avons le riche approvisionnement de l'Esprit de Jésus-Christ. Et si nous parlons, laissons couler l'Esprit. Oh Seigneur Jésus, ce que j'ai à cœur, c'est que le Seigneur a cette œuvre aujourd'hui qu'il a commencé. Et qu'il terminera. Et nous avons besoin de cette communion pour l'Évangile. Et les Philippiens l'ont eu, cette communion, dès le premier jour, dès le début de l'Évangile. Il en est parlé. Au chapitre 1, il en est question au commencement de l'Évangile. Il y a eu un commencement. Et ça a commencé là, et ça a continué à Philippe, avec les frères et sœurs. Et les frères et sœurs ont approvisionné. Donc il y a eu un commencement, et le début, le commencement de l'Évangile était avec Jésus-Christ. Et au début, il y avait le début à Jérusalem. L'ennemi a agi, le Seigneur a agi aussi. Et alors il y a eu l'Église à Samarie, ça a continué jusqu'à Antioche. Et là-bas, ce sont les chrétiens qui ont pour la première fois porté le nom de chrétien. Et puis, ils sont allés en Asie. Et à un moment donné, l'Esprit ne leur a pas permis d'aller par-ci. Et alors l'Esprit est allé en Europe. Et les frères sont arrivés à Philippe. Et aujourd'hui, nous avons l'Épître aux Philippiens. Donc le témoignage de l'Évangile est arrivant d'un tel lieu, est venu en Bavière aussi, et où encore, en Nord-Westphalie, à Berlin, dans la Suisse aussi, en Autriche, amen. Et maintenant, nous avons besoin de cette communion pour propager l'Évangile. Il faut que cela continue. Je ne veux pas le dire de manière qui excite tout le monde. Mais si nous voyons à quel point nous avons un grand salut et combien il est riche pour nous, alors cela brûle en nous. Brûle en moi. Et quand on continue avec Thessaloniciens, depuis chez vous, l'Évangile s'est répandu. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nous. À l'époque, il y avait les apôtres qui ont parlé. Mais qui parle aujourd'hui? Et il y a aussi des obstacles. J'aimerais dire courtement quelque chose. Le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Et nous appliquons ceci. Il est assis sur le trône aujourd'hui. Nous appliquons ceci. Même si ce n'est pas toujours, tout de suite, s'il n'y a pas une victoire victorieuse de suite, mais toutes choses sont sous ses pieds et il a été donné comme tête à l'Église. Par notre prière, nous l'avons vu aussi, nous repoussons l'ennemi, nous nous relions au trône et l'ennemi doit fuir. Amen. Et encore une chose, ce qui concerne le monde, courtement, il nous faut être au clair aussi à ce sujet. Le monde ne connaît pas l'Évangile. Quelqu'un se dépouille, s'humilie, va à la croix, s'abaisser. Le simple fait de s'abaisser. Et tout l'Évangile du péché, il y a le mot, il y a des pays où le mot de péché n'existe même pas, ou à peine. Et le monde ne connaît pas non plus l'amour de Dieu. Ne nous étonnons pas si le monde réagit bizarrement face à l'Évangile. Ils ne connaissent pas l'Évangile. C'est comme si je vous parlais maintenant dans une langue étrangère. Vous ne comprendriez pas, le monde ne comprend pas. Et l'homme naturel ne peut pas non plus prendre les choses de l'Esprit de Dieu. Mais nous voulons atteindre l'esprit des hommes. Nous n'apportons pas de bons arguments, mais nous apportons le Christ vivant en tant que l'Esprit. Et pour le monde, elle ne comprend pas non plus la mort de Christ. Ne nous étonnons pas de cela. Le monde et l'Évangile n'ont rien de commun. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Spécialement, les écoliers le remarquent. C'est seulement valable pour ceux de Stuttgart. Mais les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose d'étrange pour eux. Cela ne doit pas nous ébranler dans notre fermeté. Nous sommes fermes dans le Seigneur. Louez le Seigneur. Et d'autres obstacles encore. Nous-mêmes, nous ne devons pas bloquer l'écoulement, le jaillissement de l'esprit. Nous aimons être cool. Mais rien ne brûle. Et si rien ne brûle, rien ne jaillit. Déposons là cette, entre guillemets, coulitude naturelle. Et nous faisons tellement de choses que nous aimons bien faire. D'accord, nous avons besoin aussi de nous détendre, de nous reposer. Je ne dis pas qu'on n'en ait pas besoin. Mais si on est toujours comme ça, si nous ne pensons toujours qu'à nous-mêmes, non, gardons aussi quelques sentiments pour les hommes. N'utilisons pas tout pour nous. Ça aussi, c'est vivre Christ. C'était saisir ce qui étaient les pensées en Christ. Le Seigneur n'a pas souvent vécu ses sentiments, ses propres sentiments. Il a même eu faim de temps en temps. Et un autre obstacle, c'est notre paresse. Ah, aujourd'hui, on parle de la zone de confort. Nous ne voulons pas être influencés par cela. Mettons-le de côté. Ensuite, il y a la propre gloire. Mettons-la de côté. Oublie-le, ouais, oublie. Et la fierté. D'un côté, nous sommes fiers, ça nous bloque. Nous avons entendu ne pas perdre la face. Mais d'un autre côté, il y a aussi la honte. nous avons honte. L'âme doit apprendre. Âme, n'aie point honte. Nous pouvons le dire à notre âme. Nous avons Christ en nous. Le vivant. Celui qui a vaincu la mort. Qui nous fortifie avec la puissance de sa résurrection. Et la paix de Christ que la paix de Christ règne dans nos pensées, qu'elle garde nos cœurs. Je dis au Seigneur souvent, Seigneur, garde mon cœur, garde mes pensées en toi. Et vous savez, beaucoup de pensées ont à voir avec les soucis. Je ne vais pas en parler plus. Vous pourrez le lire dans Matthieu 6. Ne soyez pas inquiets pour les vêtements ou la nourriture, ok? Et il y a des pays où il y a vraiment un souci par rapport à la nourriture et par rapport aux vêtements. Mais ici, nous avons des armoires pleines de vêtements. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Mais néanmoins, nous avons des soucis. Il faut de nouveau acheter quelque chose de nouveau. Ok, on peut avoir quelque chose de nouveau, je ne parle pas de cela. Mais le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il aime pourvoir à nos besoins. Beaucoup de familles grandissent et les chaussures sont déjà trop petites, il faut en acheter de nouveau. Il faut acheter de nouveaux pantalons. Bon. Ça, c'est déjà quelque chose à traiter. Mais il est de loin meilleur que nous jetions nos soucis sur lui, nous libérer des soucis pour être libres, pour parler, pour distribuer Christ, de vivre Christ, de nous occuper les uns des autres, pour nous occuper des hommes et aussi les soucis nous concernant nous-mêmes et avoir la peur des hommes. C'est dit dans Matthieu 10. Je veux simplement résumer de Marc 8. Marc 8, 35. Mais celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Tous ces versets dans Philippiens concernant la joie ou les soucis ou les hommes, c'est pour nous-mêmes, pour sauver nos âmes et à cause de l'évangile. Sinon, parce que l'évangile a besoin de place aussi dans notre âme. Et puis 10, 29, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple. Il est dit, je vous le dis en vérité, n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Et quand nous nous dirigeons selon la paix et que nous laissions préserver nos pensées par le Seigneur, nous revenons toujours au fait de garder nos âmes. Nous apprenons aussi l'obéissance comme Christ l'a apprise. Comme vous avez toujours été obéissant, travaillez à votre salut. Toujours, quand nous avons été obéissants, nous avons œuvré pour notre salut. Et nous continuons. Oublie quand tu n'as pas été obéissant, mais continue. Ne sois pas triste des heures et des jours durant. Continue d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et au verset 8, de manière consciente, orienter nos pensées, De manière active, on peut placer les pensées sur ce qui est du Seigneur et sur ce qu'est l'autre, ce qui est vrai. Pensez à ce qui est vrai. Aujourd'hui, on avait déjà les versets. Dans Hébreux 12, regardons à Jésus. Et la vérité, nous l'avons devant les yeux, pas nos sentiments. Tout ce qui est honorable, vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, nous pouvons volontairement mettre nos pensées sur ce qui est pur. Aujourd'hui, l'impureté nous est présentée de toutes les manières possibles, comme une normalité. Mais le Seigneur nous a donné une vie pure et nous nous maintenons purs. Je ne peux pas approfondir ce point, mais conservez-vous purs. Ça plaît au Seigneur. Le Seigneur veut une église pure. Louez le Seigneur. Ça lui fait plaisir. C'est agréable pour lui. Pensez à cela. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, c'est même plus. Nous pensons à ceci. Avec quoi pourrais-je faire de la joie au Seigneur, aux frères et sœurs? Et en faisant ceci, il va y avoir plus de louanges. Et il y a une parole qui vient. Louez le Seigneur. Et après? Et qu'y a-t-il après? Donc pas seulement pour moi, mais pour les saints, pour les hommes. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je voudrais rajouter un mot en ce concernant appris, reçu, entendu et vu en moi, pratiquez-le. Il y a des choses dans la vie de l'Église, nous les avons apprises et nous les avons reçues. Il y a toujours à nouveau eu, nous n'avons pas le droit d'être légaliste, oui. Attention, il y a un danger que ce que nous devenions légalistes. Mais il y a de bonnes habitudes, non? Et prier. Prier peut devenir un rituel. Mais en priant, tu peux toucher le Seigneur. Et on a appris cela. S'il vous plaît, continuez à prier. Pas analyser. Ces questions nous amènent dans l'analyse. Est-ce que je suis en esprit ou non? Est-ce que c'est une prière dans une forme ou est-ce autre chose? Je tourne mon cœur vers toi, Seigneur. Je m'ouvre à toi. Je prie. Commence à prier. Prie. Comme toujours, maintenant aussi. Maintenant. Et ne pas différencier. Comme toujours. Non. Il y a toujours elle qui commence quand il y a une réunion. Et c'est toujours lui qui donne le témoignage. Une sœur a posé la question. Ce sont toujours les mêmes qui donnent les témoignages. Est-ce que nous, on a le droit de parler, de donner un témoignage? Oublie l'analyse. Ça, c'est le voir de l'extérieur. C'est naturel. Comme toujours, maintenant encore, de suite, maintenant, je veux me tourner. Donc, s'il vous plaît, nous avons de bonnes habitudes dans l'Église et nous allons continuer de les pratiquer. Et alors, le Dieu de paix sera avec nous. Sinon, il y aura des discussions et alors la paix ne sera plus là et partira. Je donne encore un exemple. Si vous me permettez, à la maison, quand je vais au travail, je donne encore un baiser à ma femme. C'est une habitude. C'est par amour. Et elle s'en réjouit. Et moi aussi. Mais c'est une habitude. Mais c'est une bonne habitude qui vient du cœur. Toutes les habitudes, quand ça vient du cœur, réjouissent le Seigneur. Continuons d'avoir de telles habitudes. Et ensuite, il y a encore ici. Paul, courtement, était en prison et il a appris et s'est exercé. J'ai appris le mystère à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais il dit aussi, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, nous avons besoin des deux choses. Nous avons besoin de l'expérience de ce Christ et de la communion. Au verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Nous pensons aux frères et sœurs, nous prions pour eux et que ceux-ci continuent à fleurir.
Amen.
Amen. Et un point que j'aimerais aborder encore, c'est la communion pour l'Évangile et la communion dans le fait de prendre et de recevoir, de donner et de recevoir. C'est un point, on n'aime pas trop en parler, dans le fait de donner et de prendre. Mais cela fait partie de la vie d'Église. Il y a un tel principe dans la parole du fait de donner et de recevoir. Le Seigneur nous l'a vécu. Et dans Galates 6, vous pourrez lire vous-même. Que les biens spirituels sont apportés, mais ils ont aussi ceux qui apportent une nourriture spirituelle ont aussi besoin d'une nourriture matérielle pour annoncer l'Évangile. Et c'est aussi nécessaire pour les jeunes gens quand ils ont terminé leurs études. D'où vient leur argent? Ok. Il a trouvé un bon emploi. Qui a fait tout ça? Qui s'occupe de nous? C'est Dieu qui l'a fait. Il l'a pourvu. Et alors, il est juste aussi de prendre quelque chose pour son œuvre aujourd'hui, pour l'œuvre de Christ. Pour des hommes, et pas seulement d'occuper de nos propres intérêts, mais en faire profiter d'autres hommes. Et à l'œuvre, vous faites bien d'approvisionner les frères afin que rien ne leur manque. Et ainsi, dans l'évangile de Jean, ils sont devenus les collaborateurs de la parole. Je voudrais seulement l'aborder très courtement. Et que le Seigneur nous conduise plus avant encore. Et c'est un salut. Ça, tu es sauvé de l'argent, du fait d'être lié par l'argent. Et notre âme a besoin d'être sauvée de plein de choses. Elle colle à plein de choses, au moi, à des choses, à des hommes et à l'argent. Donc, maintenant, ne donnez pas tout ou en don. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais va devant le Seigneur. Seigneur, où y a-t-il une occasion? Seigneur, j'aimerais collaborer avec tout ce que je suis et avec tout ce que j'ai. Je connais une maison de sœurs qui était fraîchement... La maison de se créer, en fait, elles ont aussi commencé à inviter des frères et sœurs. Et donc là, il faut bien s'occuper de la caisse de la maison quand elle est petite. Il faut acheter les ingrédients. Et parfois, tu achètes le double parce que tu es trop énervé, tu comptes pas vraiment. C'est comme ça. Donc, il est important de ne pas seulement penser à nous et utiliser tout pour nous. Le Seigneur a tout laissé. Chacun selon sa mesure, s'il vous plaît, avec le Seigneur et avec les saints. Et alors, le Seigneur pourvoira aussi à tous nos besoins. Un manque ne doit pas être une raison. Ne pas attendre que nous nous sentions dignes ou que nous sentions parfaits, parfaitement équipés. Oui, nous sommes équipés déjà. Nous avons le vivant en nous. Dans la préparation, nous avons aussi réfléchi. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir quelques questions type quel début pourrait-on avoir pour annoncer l'Évangile? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas donner des aides pratiques? On peut le faire. On n'a pas le temps maintenant, mais... Comment simplement? Philippe, il est dit dans la parole, s'est simplement approché de... Et il a simplement pris quelque chose dans la parole et a commencé à partir de la parole qu'il avait à partager. Philippe, donc il s'agit, qui prêchait à l'intendant. Et à la fin... Propageons activement la bonne nouvelle jusqu'à ce que son royaume vienne ouvertement et que nous y entrions. L'annonce de l'Évangile n'est pas une activité, mais c'est vraiment cette vie que nous vivons intérieurement. C'est la continuation de cela, et cela a à voir avec le royaume. Nous avons déjà cité ce verset de Matthieu 24. Quand l'évangile du royaume sera annoncé sur toute la terre habitée, alors viendra la fin. Cela doit nous parler. C'est le verset Matthieu 24, 14. Il y a beaucoup de versets concernant la fin, annoncer la nouvelle du royaume. C'est notre devoir, entre autres. Il y a ici deux erreurs dans... Donc, acte 8, le verset 12. Donc, acte 8, verset 12 nous dit... Acte 8, 12... ließen sich Männer und Frauen taufen. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Donc notre évangile, Christ en nous, cette unité en esprit et le fait d'être unis dans l'âme. Et nous nous soumettons volontairement au Seigneur, où tous les membres du corps sont un avec la tête et les uns avec les autres. Ça, c'est le royaume du Seigneur. Dans le corps, le Seigneur règne. Avec sa vie, avec son esprit. C'est ce que les gens aimeraient voir et c'est ce dont le monde a besoin. Une nouvelle humanité, un nouvel homme, des hommes qui vivent Christ dans l'unité. Et nous venons au Seigneur. Notre citoyenneté est dans les cieux et nous recevrons la couronne de la récompense. Maintenant, courons ensemble, fortifions-nous, annonçons l'Évangile, craignons le Seigneur et non pas les hommes. Louez le Seigneur jusqu'à ce que son royaume vienne ouvertement. Philippiens termine avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et j'aimerais terminer également ainsi. C'est quelque chose de grandiose. Cet évangile court. La victoire du Seigneur sera ouverte. Apocalypse 12, 10 et 11. Lisons-le ensemble. Dans la foi. Apocalypse 12, 10 et 11.